je vais redonner la parole tout de suite à Isabelle Bonnet pour poursuivre son exposé.
À partir des années 1960, l'industrie automobile, toujours en pointe quand il s'agit de gérer au mieux les installations pour améliorer les profits, développa une nouvelle organisation du travail, mais à partir du Japon cette fois. Conçue par un ingénieur japonais de l'usine Toyota, le toyotisme consiste à réduire les coûts de production par tous les moyens possibles. D'une part, il développe le juste à temps, c'est-à-dire la production à flux tendu, sans stock. D'autre part, il s'appuie sur de nouvelles règles de management du personnel censées apporter plus d'autonomie aux salariés, par opposition au taylorisme qui affectait à chaque poste une personne et une tâche précise. En 1972, Satoshi Kamata, un journaliste japonais, a partagé pendant 5 mois le quotidien des ouvriers sur les chaînes de montage à l'usine Toyota de Nagoya. Dans son livre « Toyota, l'usine du désespoir », il raconte l'envers du décor avec l'augmentation sans fin des cadences, la polyvalence bouche-trou, la mise en concurrence des salariés et la pression énorme au nom de l'esprit d'entreprise. Cette méthode s'est généralisé à la fin des années 1980 en Europe et aux États-Unis, dans les usines de production comme dans les services. On la retrouve aujourd'hui sous l'appellation de Lean Management, traduire par management maigre. En s'attaquant aux sources de gaspillage dans le processus productif que seraient les stocks intermédiaires, les périodes d'attente ou les mouvements inutiles, le Lean agit au sens propre à la manière d'une cure d'amaigrissement dans le seul but de procurer une rentabilité accrue aux entreprises. Mais pour les salariés, c'est l'intensification du travail avec la chasse au moindre temps mort et la réduction de leur marge de manœuvre. À Airbus, par exemple, qui l'utilise aujourd'hui, des panneaux ont fleuri, recouverts de graphiques, informant en permanence sur la sécurité, la qualité, le coût, les délais, le personnel. L'activité de chaque machine et de chaque opérateur y est affichée, et tout est chronométré, quels que soient les éventuels problèmes techniques ou d'approvisionnement. La suppression des déplacements et une immobilisation plus longue sur le poste de travail oblige à solliciter toujours les mêmes muscles. Quant au contenu du travail lui-même, les promoteurs de ce fameux Lean vantent la participation des ouvriers, rebaptisés pour l'occasion opérateurs, à l'amélioration continue de l'organisation du travail et de leur poste. Derrière une soi-disant responsabilisation et une plus grande autonomie, où l'opérateur se fixerait lui-même ses objectifs, il est surtout poussé à se mettre la pression lui-même, à culpabiliser s'il n'est pas assez productif, à ne plus compter son temps de travail. Et les médias, acquis à la nouvelle mode, ne cessent de chanter les louanges de cette nouvelle organisation. Le Parisien, titré le 13 mars 2015, « Salarié, soyez vos propres chefs. » Tandis que la chaîne Arte diffusait le 24 février dernier une émission intitulée, tout un programme, « Le bonheur au travail ». On y suivait plusieurs entreprises appliquant ce Lean Management. Mais qu'il s'agisse d'un ministère, d'une chocolaterie ou d'une fonderie, derrière le beau discours sur la disparition des chefs devenus inutiles avec la confiance retrouvée des salariés dans leur travail, le bonheur consistait surtout pour les patrons à voir la productivité et leur profit augmenter. Finalement, quelle que soit l'organisation du travail, peut-on dire encore aujourd'hui que le travail est aliéné, même est toujours contraint pour la plupart des salariés. Il impose non seulement des contraintes physiques et psychiques qui mettent les corps et les esprits à rude épreuve quand ils ne provoquent pas des maladies comme les troubles musculo-squelettiques ou les troubles des psychosociaux. À cela s'ajoute un rythme qui peut être effréné lorsque la journée de travail se prolonge dans les transports urbains ou qu'on subit les horaires décalés, le travail de nuit ou du dimanche. Depuis un siècle, la journée de travail n'a pas vraiment diminué. Et pour beaucoup, elle s'est même considérablement allongée avec le temps de transport. En région parisienne, il n'est pas rare de devoir compter plus d'une heure pour se rendre au travail et autant pour en revenir. Pas seulement les jours de grève à la RATP ou à la SNCF, bien que ce soit les seuls jours où les médias s'intéressent aux conditions de transport des banlieusards. La cherté des logements, en particulier, contraint de plus en plus de salariés à habiter loin des villes, ce qui prolonge d'autant les temps de trajet. Pour aller travailler un jour ou deux de moins par semaine, des infirmières ont accepté des horaires comme la journée de 12 heures. Avec de tels horaires, elles évitent au moins les bouchons, les heures de pointe, les problèmes de stationnement. Elles diminuent le nombre de jours où il faut payer la garde d'enfants. Quant à la journée ou deux de repos supplémentaire dans la semaine induite par ces horaires, elles considèrent que c'est une coupure nécessaire alors que la dégradation de leurs conditions de travail due aux économies de personnel rend leur métier de plus en plus envahissant et stressant. Pour nombre d'ouvriers, les trajets entre le domicile et l'usine, les horaires de travail postés, les 3-8, les 2-8, pire encore, les 4-8, ajoutent encore de la fatigue à un travail usant qui peut être tout à fait monotone, répétitif, autant qu'au siècle dernier. Sans compter que le conjoint ou les enfants n'ayant pas le même rythme, on peut vivre sous un même toit et ne faire que se croiser chaque jour. Et en termes d'exploitation, le secteur de l'Internet vaut bien celui de la vieille industrie. L'entreprise américaine de commerce électronique Amazon emploie dans ses 4 entrepôts français environ 5000 personnes. Sur un seul site, c'est près d'1 million d'objets qui sont stockés, obligeant les employés à parcourir plus de 10 km par jour pour les rechercher, toujours munis de leur scanner manuel, ce qui leur permet de suivre en temps réel s'ils remplissent l'objectif de 110 colis par heure. Leur chef peut aussi suivre en direct la préparation des commandes grâce à cette géolocalisation permanente qu'est le scanner. La devise de l'entreprise, importée des États-Unis, peut sembler une bonne blague. Travaillez dur, amusez-vous et écrivez l'histoire. Rien que ça. Beaucoup moins drôle, un quart de l'effectif est en intérim et les salaires atteignent à peine 1 150 € par mois en CDI. Un autre moyen de pressurer les travailleurs, c'est de ne compter que le temps de travail effectif dans les horaires, sans tenir compte de tout le temps qui est lié au travail. La Cour des comptes a épinglé en février 2015 la RTM, la Société de Transport Urbain de Marseille, car les chauffeurs de bus ne faisant que 6h et 18 minutes de conduite journalière, ils seraient, selon elle, de véritables privilégiés du travail. En fait, ce temps de travail effectif ne tient pas compte du temps pour la préparation du bus, des pauses pour les relais, des déplacements entre deux temps, entre deux lieux différents de prise de service. Autrement dit, la journée réelle de travail d'un chauffeur de bus est bien plus longue que ces 6h et 18 minutes qu'il passe au volant. Les rapporteurs de la Cour des comptes mériteraient, eux, de passer leur journée à conduire un bus par tous les temps, à l'aube ou à la nuit, jour férié compris, dans les embouteillages et les travaux, au milieu d'automobilistes excédés. Même les cadres passés au forfait jour subissent une intensification du travail. Leur vie professionnelle déborde sur leur vie personnelle grâce aux tablettes, ordinateurs et autres smartphones grâce auxquels ils peuvent continuer à travailler dans les transports ou chez eux, au point que leurs syndicats en sont arrivés à revendiquer le droit à la déconnexion. Et ce système du forfait jour commence à s'étendre à d'autres emplois que les cadres. Quant à la coupure entre travail intellectuel et travail manuel, liée à la division du travail et accentuée par le développement du machinisme, elle est toujours aussi importante aujourd'hui. L'engouement populaire pour le bricolage ou le jardinage tient sans doute en partie au fait que ces activités permettent à la fois de concevoir quelque chose dans sa tête avant de le réaliser de ses mains. Au XXIe siècle, dans bien des pays, l'exploitation capitaliste est aussi brutale qu'elle l'était dans les premières nations industrielles au XIXe siècle. Et elle y suscite la même lutte de classe acharnée, que ce soit pour la réduction du temps de travail ou pour arracher de meilleurs salaires. Le continent asiatique en particulier a connu des grèves importantes dans des usines qui travaillent pour les multinationales occidentales de l'informatique ou de l'habillement. En Chine, l'entreprise taïwanaise Foxconn s'est fait connaître depuis 5 ans pour ses conditions de travail militarisées, ayant même entraîné une vague de suicides, mais aussi pour ses grèves. Premier fabricant de pièces électroniques pour les plus grandes marques de l'industrie informatique comme Apple ou Nokia, elle emploie plus d'1,2 million d'ouvriers répartis sur plusieurs villes. À Shenzhen, ce sont près de 400 000 ouvriers qui travaillent dans des conditions démentes, la main-d'œuvre étant toujours disponible car elle est logée sur place, dans des couloirs, dans des dortoirs surpeuplés. Aujourd'hui, l'entreprise Foxconn, qui doit faire face à une classe ouvrière combative, de plus en plus organisée et connaissant mieux ses droits, utilise une nouvelle main-d'œuvre à bon marché. Comme bien d'autres industriels, et grâce à la complicité des pouvoirs publics chinois, elle emploie de jeunes stagiaires que leurs écoles techniques obligent à faire un stage, de préférence aux périodes de pointe de l'activité, comme la sortie du nouvel iPhone 5, par exemple. La part de ces stagiaires qu'on force à travailler pour rien peut alors atteindre un quart de l'effectif. Nul doute qu'en apprenant précocement l'exploitation capitaliste, ces jeunes apprennent aussi la lutte des classes. L'ancien atelier du monde, comme on appelait la Chine, est maintenant remplacé par d'autres pays comme le Cambodge ou le Bangladesh, où la main-d'œuvre est moins chère. Car après les mobilisations ouvrières qui ont touché toute la Chine en quelques années, les salaires y ont augmenté de 22% par an depuis 2010. Aujourd'hui, tandis qu'un ouvrier chinois touche l'équivalent de 200 euros par mois, le salaire minimum des ouvriers du textile cambodgien a été réévalué à l'issue de grèves massives fin décembre 2013 à l'équivalent de 75 euros par mois. Ceux des usines du Bangladesh gagnent à peine plus de 60 euros. Et même ces 60 euros mensuels, les ouvrières et les ouvriers du textile bangladais ont dû se battre pour les arracher. En 2010, une vague de grèves avait secoué tout le pays, à la suite de la proposition par une commission gouvernementale de fixer à seulement 34 euros le salaire minimum, une véritable provocation pour les ouvriers. Le président de cette commission gouvernementale avait osé calculer le nombre de calories journalières dont a besoin un ouvrier pour survivre. D'après lui, 3200 calories par jour, soit environ 27 euros par mois. Il considérait donc le salaire de 34 euros comme tout à fait suffisant. Pour ce digne représentant de patron affamé de profit, les ouvriers auraient dû se contenter d'une ration de famine, ne leur permettant même pas de nourrir leur famille, cela pour 10 heures de travail par jour, 6 jours sur 7. Et depuis, chaque année, des usines du textile ont été à l'arrêt suite à des grèves explosives, car au salaire de misère, aux journées de travail interminables qui se terminent souvent dans la nuit, s'ajoutent les conditions de sécurité déplorables dans les ateliers. À la suite de l'effondrement, le 24 avril 2013, du Rana Plaza, un immeuble de 8 étages situé dans la banlieue de Dhaka, la capitale, entraînant la mort de plus de 1100 ouvriers, une explosion de colère balaya le pays. À l'automne 2013, une nouvelle vague de grève obligea le gouvernement à porter à 60 euros le salaire minimum, soit une augmentation de 80%. Mais on aurait pu parler tout aussi bien ce soir des grèves sans précédent dans les mines d'Afrique du Sud l'an dernier, de celles qui ont secoué le Brésil à la veille du mondial de football 2014. D'un continent à l'autre, le sort des prolétaires a cela de commun. Ils doivent mener la lutte des classes pour ne pas être écrasés sur l'autel des profits capitalistes. Et toutes les avancées durement conquises, même provisoires, nous réjouissent, car elles n'obligent pas seulement le patronat local à reculer, mais en permettant à la classe ouvrière de ces pays de se forger une conscience de classe, elle renforce le camp des exploités dans son combat général contre la bourgeoisie et le capitalisme. Alors, dans les vieux pays capitalistes, ce qui s'est généralisé, c'est le chômage massif. Bien sûr, le chômage n'est pas nouveau. Il est aussi ancien que le capitalisme. En son temps, Marx parlait de l'armée industrielle de réserve pour désigner l'ensemble des travailleurs provisoirement ou durablement sans emploi. Du fait de la concentration du capital et des crises économiques, le capitalisme engendre à certaines périodes un chômage de masse. Les capitalistes en tirent plusieurs avantages, celui de disposer d'un réservoir de main-d'œuvre disponible à tout moment, mais aussi celui de peser à la baisse sur les salaires. En France, il y aurait aujourd'hui 5,5 millions de chômeurs, en comptant ceux qui n'ont qu'un emploi à temps partiel, parfois seulement quelques heures dans le mois, alors qu'ils recherchent un temps plein. La hausse ininterrompue du chômage depuis 40 ans s'est accélérée ces dernières années avec la crise financière. Les plus grandes entreprises se servent de la crise pour restructurer, en fait pour licencier massivement, ce qui leur permet de verser plus de dividendes à leurs actionnaires. Et dans une société basée sur le salariat, perdre son emploi, c'est perdre tous les droits qui y sont attachés. Le droit à la protection sociale, à la santé, à la retraite ou encore l'allocation chômage, tout cela dépend étroitement d'un emploi. Et lorsqu'on est au chômage depuis trop longtemps, ou bien qu'on n'a jamais pu travailler parce que trop jeune, on se retrouve sans aucun revenu et dans la misère. C'est parce qu'ils étaient incapables d'endiguer cette montée de la misère que les gouvernements ont développé un système de revenu minimum. Il y a d'abord eu le RMI, créé en 1988, qui a été remplacé en 2009 par le RSA, Revenu de Solidarité Active. Ces minima sociaux, censés faire reculer la pauvreté et favoriser le retour à l'emploi, sont en fait entièrement financés par l'État et permettent de dégager les patrons de toute obligation vis-à-vis du chômage massif qu'ils ont contribué à créer. 6 ans après la création du RSA, près de 5 millions de personnes, entre les allocataires et leurs familles, doivent en vivre, et son montant varie selon les personnes au foyer, mais aussi selon la reprise ou non d'une activité partielle. Ce nombre, il ne cesse d'augmenter, car d'un côté, de plus en plus de chômeurs ont épuisé leur droit au chômage, de l'autre, les travailleurs précaires peuvent obtenir avec le RSA un maigre complément à des salaires de misère. Ce RSA dit activité concerne plus de la moitié des allocataires actuels. Il a été un moyen pour imposer aux travailleurs des emplois sous-payés. Malgré cela, d'après les associations caritatives, près de 7 personnes sur 10 éligibles au RSA ne le demanderaient pas, entre autres parce qu'elles sont culpabilisées par le discours actuel contre les soi-disant assistés que seraient les pauvres. Présenter les pauvres, ceux qui perçoivent les minima sociaux ou encore les chômeurs comme des assistés, c'est un moyen de diviser le monde du travail, mais également de dédouaner le patronat. C'est pourtant lui le responsable de l'explosion du chômage, de la montée de la pauvreté. C'est lui encore qui utilise la crainte du chômage pour imposer une régression des conditions de travail, la baisse des salaires. Rien que cela condamne le système capitaliste, un système fou, capable de réduire les uns à l'inactivité et au chômage, pendant qu'il crève les autres au travail, au profit d'une minorité de riches oisifs. C'est pourquoi l'une des revendications principales que la classe ouvrière devra mettre en avant lorsqu'elle entrera en lutte, c'est la répartition du travail entre tous, en commençant par interdire les nouveaux licenciements et sans baisser les salaires déjà bien trop bas. Car peser sur les salaires est un autre moyen pour les capitalistes d'augmenter leurs profits ou de les maintenir dans cette période de crise. Payer moins cher la force de travail tout en intensifiant son utilisation, voilà l'origine des profits colossaux de ces dernières années. L'offensive patronale contre les salaires a commencé il y a 30 ans avec la complicité des gouvernements de gauche comme de droite qui se sont succédés. À partir de 1982, sous Mitterrand, les salaires ont été bloqués, c'est-à-dire qu'ils n'augmentent plus automatiquement avec la hausse des prix. Mais la hausse des prix, elle, n'a jamais cessé, et le pouvoir d'achat a fondu. Quant aux cotisations patronales qui correspondent à du salaire différé, elles n'ont pas cessé de diminuer depuis les années 1980, sans parler des multiples exonérations, comme celles sur les petits salaires, ce qui a poussé et encouragé les patrons à payer toujours moins. Les bas salaires se sont généralisés. Actuellement, près d'un salarié sur 5 touche le SMIC ou à peine plus. C'est le double d'il y a 20 ans. Et si la France n'est pas le pays où le SMIC est le plus bas, à 1136 € net par mois au 1er janvier 2015, elle est de très loin celui où la proportion des salariés payé au SMIC est la plus élevée d'Europe. Près de 40% des salariés touchent moins de 1,3 fois le SMIC. Mais pour certains patrons, il est encore trop élevé. Régulièrement, des grands groupes, et pas les moindres, comme Carrefour, sont condamnés par les tribunaux pour payer des salaires inférieurs au SMIC. Et l'État lui-même n'est pas exemplaire, alors qu'il embauche dans les hôpitaux, dans l'éducation nationale, des ouvriers en dessous du SMIC en compensant les premiers temps par une prime qui disparaît évidemment dès que le salaire augmente avec l'ancienneté. Et les temps partiels imposés ou les stages sous-payés qui durent de plus en plus longtemps sont un autre moyen de payer des salaires au rabais. Le nombre d'emplois à temps partiel n'a pas cessé d'augmenter, notamment dans la grande distribution, le nettoyage ou les services à la personne. Cela touche près d'une femme sur trois, dont une grande majorité souhaiterait travailler à temps complet. D'autant que leurs horaires, comme femme de ménage ou comme caissière, étant concentrés sur les soirées ou les fins de semaine, elles sont souvent contraintes de régler toute leur vie personnelle autour de cet emploi qui ne leur procure qu'un salaire insuffisant. Et même si la loi fixe depuis 2013 un seuil minimum de 24 heures par semaine pour un emploi à temps partiel, toutes les dérogations possibles permettent de le contourner. Dans cette période de crise, alors que les chômeurs se comptent par millions, que les salaires sont tirés vers le bas, les attaques contre le monde du travail redoublent avec le chantage permanent à l'emploi pour les faire accepter. Un des aspects les plus visibles de la déréglementation du travail. C'est la généralisation de la précarité et la remise en cause du CDI. Le CDI devient l'apanage des anciens embauchés. Les CDD et les missions d'intérim représentent à eux deux 87% des nouvelles embauches et surtout, ils sont de plus en plus brefs, la moitié d'entre eux étant de moins de 10 jours sans aucune garantie pour la suite. Le fameux contrat unique, réclamé par un patronat qui veut pouvoir embaucher et débaucher à sa guise, existe dans les faits. Aujourd'hui, sur les chaînes de montage automobile, il peut y avoir autant, si ce n'est plus, d'intérimaires que d'embauchés. Les travaux les plus pénibles incombant aux intérimaires, obligés de les accepter au nom d'une possible embauche. Certains restent même intérimaires pendant des années, le patron se contentant de respecter le délai de carence entre deux missions sans que l'embauche soit au bout. Cette explosion du travail temporaire est tout à l'avantage du patron, la précarité de l'intérimaire faisant de lui le premier licencié en cas de baisse de charge. Depuis 2 ans, le gouvernement soi-disant socialiste n'a cessé d'accompagner, voire de devancer, toutes les volontés patronales de déréglementer davantage le travail. Cela a commencé en 2013 avec la loi appelée mensongèrement de sécurisation de l'emploi, qui traduisait l'accord national interprofessionnel dans la loi. Cela a continué avec les accords dits de compétitivité. Dernière en date, la loi Macron est dans la même ligne. Elle facilite les licenciements collectifs au nom du prétendu maintien de l'emploi. Elle augmente le nombre de dimanches travaillés. La compensation salariale éventuelle devant être négociée avec l'employeur. Elle affaiblit les tribunaux des prud'hommes. Elle supprime le droit pénal du travail. Les patrons ne pouvant plus être condamnés pour faute, se contentant de payer des amendes. Ils les paieront s'ils les payent. Derrière tout cet arsenal de mesures anti-ouvrières, il en est une qui remet en cause la spécificité du contrat de travail. En annulant une disposition législative vieille de plus de 2 siècles, il fallait y penser. Ainsi, le contrat de travail ne serait plus réglementé par le Code du travail qui indique les obligations auxquelles tout employeur est soumis. Mais il serait considéré comme une relation commerciale comme une autre, dans laquelle patron et salarié pourraient négocier de gré à gré, comme si dans l'entreprise, le salarié et son employeur étaient sur un pied d'égalité pour discuter salaire, conditions de travail, temps de travail. Dans les faits, l'application de ce recul dépendra avant tout du rapport de force entre le monde du travail et le patronat. Mais ce qui se passe dans d'autres pays avancés donne une idée du but que poursuit le patronat. En Grande-Bretagne, l'application du contrat dit « zéro heure » a fait reculer les conditions de vie et d'emploi de millions de salariés. Sa caractéristique principale, l'employeur ne garantit pas de chiffre minimal d'heures travaillées, qui peut être de zéro, mais seules les heures travaillées sont rémunérées. De son côté, le salarié s'engage à être disponible pour travailler en fonction des besoins de l'entreprise. Il peut être averti seulement quelques heures avant la prise de service et n'a pas toujours la possibilité de refuser les heures de travail proposées. Au final, il ne peut ni compter sur un revenu, ni organiser son emploi du temps. En janvier 2015, il y avait environ 1,4 million de contrats zéro avec quelques heures de travail par mois et 1,3 million de plus sans aucune heure travaillée, presque 5 fois plus qu'un an plus tôt. C'est une telle aubaine pour les employeurs anglais que plus d'un sur 10 y a recours. En France comme en Italie, l'encouragement du gouvernement à créer son propre emploi en devenant, soi-disant, auto-entrepreneur va dans le même sens. Au bout du compte, une fois les maigres aides épongées, développer sa propre activité dans une période de crise relève du parcours du combattant, mais cela permet de faire disparaître autant de chômeurs des listings de Pôle emploi. Se sentant en position de force, les patrons mènent la lutte de classe tous azimuts, attaquant sur la durée du temps de travail comme sur les salaires. La remise en cause du dimanche hebdomadaire du dimanche s'accompagne d'une offensive générale contre les horaires de travail, avec une flexibilité accrue à la clé. Malgré le couplet sur les 35 heures responsable de tous les maux, on travaille de plus en plus en France, comme dans les autres pays d'Europe d'ailleurs. En 2007, la moyenne des salariés à temps complet était déjà de 38 heures par semaine. Elle est passée à 39,6 heures aujourd'hui et même à plus de 44 heures pour les cadres. Le contingent annuel d'heures supplémentaires ne cesse d'augmenter. Et les accords, dits de compétitivité, ont pour objectif, entre autres, d'imposer des journées, des semaines à rallonge, en même temps que des baisses de salaire. Dans certains endroits, comme au chantier naval de Saint-Nazaire, l'accord prévoyait 20 minutes de travail supplémentaire gratuit. Chez Renault, l'accord sur la compétitivité a supprimé, du jour au lendemain, l'équivalent de 21 jours de récupération. Il ne s'agissait pourtant pas d'un cadeau de la part de la direction de Renault, car ces jours étaient liés à une augmentation du temps de travail imposé auparavant, ainsi qu'à la loi sur les 35 heures. En ce moment même, un nouvel accord est en discussion entre le MEDEF et les syndicats, accord qui permettrait d'aller encore plus loin que les précédents sur la compétitivité. Il concernerait jusqu'aux salariés gagnant moins de 1,2 SMIC par an, jusque-là épargnés, et prolongerait de 2 à 4 ou 5 ans la possibilité pour une entreprise d'augmenter le temps de travail en baissant les salaires. Un autre aspect de cette offensive patronale, c'est donc l'extension du travail du dimanche et en soirée. Bien sûr, certains secteurs doivent travailler le dimanche, c'est nécessaire au fonctionnement de la société. C'est le cas dans les transports ou les hôpitaux. Mais pendant longtemps, l'ouverture dominicale était assortie de compensations, doublement du salaire, journée de repos compensatoire. Au fil du temps, il s'est banalisé. Et avant même que la loi Macron ne soit appliquée, près d'un salarié sur trois travaille régulièrement ou occasionnellement le dimanche, contre un sur cinq il y a 25 ans. Avec la nouvelle loi, les patrons n'auront même pas l'obligation de payer plus les dimanches ou les heures travaillées entre 21h et minuit. Alors quand ils prétendent qu'ils ne feront appel qu'à des volontaires et qu'ils leur réserveront certains dimanches par an pour préserver la vie de famille, aucune raison de les croire. Car que veut dire volontaire quand on arrive pour signer un contrat de travail dans un magasin déjà ouvert 7 jours sur 7? Et si les salariés de la grande distribution étaient moins précaires et mieux payés, accepteraient-ils de travailler le dimanche ou en soirée? Non. Ce que veulent les patrons, c'est que le dimanche devienne un jour comme les autres. Dans le passé, le mouvement ouvrier a défendu l'idée qu'une journée chômée par tous les travailleurs le même jour, en l'occurrence le dimanche, permettait de se retrouver entre amis, en famille, de participer à des événements sportifs ou politiques, comme à une certaine fête de lutte ouvrière, par exemple le week-end de la Pentecôte. Aujourd'hui, les patrons de la distribution prétendent défendre l'intérêt général, ou plus fort, celui de leurs salariés, quand ils font valoir l'avantage pour le travailleur du dimanche d'arrondir sa paye, ou pour le consommateur ou le bricoleur du dimanche de faire ses courses sans la bousculade du samedi. Mais en réalité, c'est le cadet de leurs soucis. Ce que veut le patronat, c'est faire sauter toute réglementation. C'est pouvoir disposer à sa guise des travailleurs sans rencontrer d'entrave. Marx condamnait en son temps le capitalisme dans ces termes. Je le cite, « La société capitaliste achète le loisir d'une seule classe par la transformation de la vie entière des masses en temps de travail. » Aujourd'hui, les patrons cherchent à reprendre par tous les moyens, dans une période où le rapport de force leur est favorable, tout ce qu'ils avaient dû céder auparavant sous la pression des mobilisations ouvrières. Ils cherchent à gagner sur tous les tableaux à la fois, sur le temps de travail, sur les salaires, et ils précipitent ainsi la société dans le mur, car les profits issus de l'exploitation servent avant tout à alimenter la spéculation financière actuelle. Toute l'histoire qu'on vient de dérouler rapidement prouve que les conquêtes du passé ont été obtenues par des luttes. C'est l'avidité même des capitalistes qui les a suscitées et qui, nous en sommes convaincus, les suscitera à l'avenir pour les mener à bout et plus loin pour renverser le capitalisme. Il nous faudra retrouver le moral, la conviction qu'on peut agir collectivement sans se laisser diviser. Et ce qui se passe dans d'autres régions du monde ne peut que nous conforter comme militants, car la classe ouvrière mondiale s'y développe en nombre et en conscience, accélérant la roue de l'histoire. Conclusion. Disons qu'aujourd'hui, travailler se résume pour la plupart d'entre nous à perdre sa vie, à la gagner, selon l'expression. Mais l'exploitation du travail humain à l'échelle de la société a libéré des tâches productives une petite partie des hommes qui peuvent déjà se consacrer à une activité leur permettant de s'accomplir ou exercer un travail non aliénant parce qu'il est librement choisi. Peut-on imaginer empêcher un Picasso de peindre le dimanche ou un Einstein de réfléchir et d'écrire ses équations le soir ou la nuit? Le problème du temps de travail ou même du salaire n'en était pas un pour eux, quoique l'un ait certainement brassé plus d'argent que l'autre. Avec la colossale augmentation de la productivité du travail, et grâce à la participation de tous aux travaux productifs, pénibles, si tant est qu'on ne soit pas capable de faire disparaître un jour la pénibilité, le travail productif lui-même pourrait devenir une simple formalité. Il laisserait alors la place à un travail véritablement humain, un travail qui fasse de nous des femmes et des hommes complets, heureux de pouvoir vivre de toute leur faculté physique et intellectuelle. Mais pour donner un autre sens au travail, il faut d'abord changer la société, la débarrasser de l'exploitation. C'est à cette condition que le travail pourrait devenir le premier besoin vital de l'homme, comme Marx l'imaginait. Je le cite encore pour la dernière fois. Dans une phase supérieure de la société communiste, quand auront disparu la servissante subordination des individus à la division du travail et avec elle l'opposition entre le travail intellectuel et le travail manuel, quand le travail ne sera pas seulement un moyen de vivre, mais deviendra lui-même le premier besoin vital, quand avec le développement multiple des individus, les forces productives se seront accrues elles aussi et que toutes les richesses de la richesse collective jailliront avec abondance, alors seulement l'horizon borné du droit bourgeois pourra être définitivement dépassé et la société pourra écrire sur ses drapeaux, de chacun selon ses capacités, à chacun selon les besoins. Et bien comme communiste, c'est bien à l'avènement d'une telle société que nous aspirons.